Il me dévisage, ému, descend et s'installe à l'arrière. Je me glisse aux commandes, fonce dans la 63e, stop à un feu rouge qui n'en finit plus. Je remonte Park Avenue, tourne dans la 64e en priant pour qu'un taxi ne l'ait pas chargé entre-temps. Elle est toujours là, se ronge un ongle au bord du trottoir. Je m'arrête en double file devant le bar d'en face. Pedro descend. Il a desserré sa cravate noire pour faire moins domestique. Il feint d'apercevoir Emma, lui propose de profiter de la limo parce qu'il lui reste une heure de location et qu'il doit prendre un verre ici même avec des relations d'affaires. Il joue comme une patate, mais elle est tellement pressée qu'elle le remercie à peine et s'engouffre à l'arrière. « Saint-Michel, me crie-t-elle, 86e Est et York Avenue. » Les épaules remontées, la tête rentrée derrière ma vitre opaque, je me dirige vers l'East River. J'espère que je ne suis pas en train de la conduire à son mariage. Le sourire dérisoire que provoque l'hypothèse me fait chaud au cœur, bizarrement. La vie continue sans moi, et c'est bien. Tout ce qui importe, là, c'est d'entendre le son de sa voix, une dernière fois, dans le haut-parleur du tableau de bord. Partir en paix, accepter enfin notre rupture, la regarder vivre sans moi, en lui souhaitant tout le bonheur qu'elle mérite. Ne laisser derrière moi ni grief, ni remords, ni espoir superflu. Oui, Cindy, c'est Emma. J'ai trouvé ton message. Non, pas ce soir, je t'ai dit, je ne peux pas. Hein? Mais non, c'est samedi simplement, j'ai des obligations. Oh, écoute, tu vas pas recommencer avec ça. Je te jure que je ne piche pas pour un autre magazine. Et comment je trouverai le temps de bosser ailleurs sous pseudo? J'ai des problèmes personnels, c'est tout. Pourquoi avec mon mec? De ce côté-là, ça va très bien. Et c'est pas la peine de ricaner, d'abord ça ne te... Bon, d'accord, je ne quitte pas. Son soupir grésille dans le haut-parleur. Je monte le volume, guette le bruit de son briquet, le sifflement saccadé qu'elle émet quand elle se détend après la première bouffée. Le rétroviseur ne me renvoie qu'une ombre derrière la glace teintée, mais j'ai tant répété ses gestes dans ma tête depuis qu'on s'est quitté que je les connais par cœur. Non, je suis toujours là. Sa voix stressée me noue la gorge. Apparemment, rien n'a changé de son côté. Les problèmes avec sa rédaction, les bouclages et les hommes de sa vie qui lui prennent la tête. Je manœuvre les commandes de la clim, essayant de basculer les systèmes de ventilation pour aspirer son air dans mon compartiment. Au bout d'un moment, par le circuit de recyclage, un peu de son parfum sort de la buse centrale, ambrée, fleurie, glacée. Je ferme les yeux. Un coup de klaxon me ramène aux réalités de la circulation. « Quelle ordonnance! Tu fouilles dans mes tiroirs maintenant? Je te dis que je vais très bien. Tom est en dépression et je me suis fait prescrire des anxiolytiques pour qu'on ne le sache pas, c'est tout. Il postule pour entrer au bureau du procureur. Tu te doutes que la moindre faille dans son dossier... Mais bien sûr, j'ai confiance en toi, c'est pas la question. Écoute, Cindy, je t'ai proposé 11 sujets pour le numéro de septembre. On boucle dans 8 jours et tu ne m'as rien commandé. » C'est dégueulasse ce que tu me fais subir. Tout ça parce que je t'ai dit non. Mais tais-toi, je t'accuse pas de harcèlement, je m'en fous. J'ai besoin de mon boulot et je fermerai ma gueule, tu le sais. Alors merde, arrête ce jeu. Tu peux te taper toutes les filles du journal. Sois un peu humaine. Je te supplie, je m'humilie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bien sûr, j'ai envoyé mon book. Si j'avais intéressé une autre rédaction, tu crois que je serais là en train de m'aplatir? Commande-moi un sujet, merde. Bon, d'accord, 8h chez toi. « Vous pourriez aller plus vite » enchaîne-t-elle en criant vers la glace de séparation, sans voir que le micro de son accoudoir est ouvert. Je hoche la tête, enfonce l'accélérateur. Son portable sonne, elle répond qu'elle est désolée Tom, elle est partie depuis 1 heure, ça ne roule pas, elle arrive. Bruit de fermoir. Elle refait son maquillage, efface les larmes de rage qui lézardaient sa voix. Je suis consterné que tout ait si peu évolué autour d'elle. J'espérais que sa nouvelle vie aurait amélioré les choses dans son travail, supprimé les blocages dont elle m'accusait. De mon temps, son rédacteur en chef était un fêtard compréhensif qui lui laissait tout le temps de travailler ses sujets, et c'était son problème. Elle me disait qu'elle manquait de pression pour se mettre à écrire, qu'elle ne pouvait être efficace qu'en s'y prenant à la dernière minute. Quant au livre politique qu'elle porte en elle depuis 10 ans et dont elle me lisait le premier chapitre un dimanche par mois, en le recommençant d'une fois sur l'autre, inutile de se demander où elle en est. Je me concentre sur les sens interdits, les déviations pour travaux. C'est terrible de voir qu'elle n'a rien fait de mon absence. On ne devrait jamais se résoudre à quitter pour leur bien ceux qu'on aime. Mais c'est trop tard. Et je viens de me planter une fois de plus. Si je l'avais abordée dans la rue sans monter ce stratagème à la con, elle m'aurait dit « Tout va bien, je suis heureuse, toi aussi, c'est génial. On a vécu une vraie belle histoire ensemble et ça reste un super souvenir. À bientôt, on s'appelle. » Et je serais parti vers l'inconnu avec son sourire au chaud dans mon cœur. Tandis que là, je n'emporterais que détresse, ratage et solitude. Sans parler de sa honte, si jamais je descendais lui tenir la portière. Sa rancune méritée en découvrant qu'elle s'est mise à nu dans mon dos sans le savoir. Je clignote à l'approche de Saint-Michel, une église en ravalement avec un mariage qui pose devant l'échafaudage. Le grand blond qui m'a ouvert la porte, la dernière fois que j'ai sonné chez elle, lui fait un signe furieux dans son smoking blanc. Elle court se glisser contre lui dans la photo, à la gauche des époux, sourire fixe. J'attends qu'elle reprenne vie au milieu des invités en applaudissant et je redémarre, la mort dans l'âme. La dernière image que j'aurai d'elle, c'est l'agacement avec lequel elle se détourne du blond qui l'engueule à voix basse. Tant qu'à en être privé, ça m'aurait fait du bien de savoir qu'un autre profite de la douceur lumineuse que j'ai tant aimée en elle. Mais ce n'est pas le sujet de leur histoire. Pour durer, les couples ont peut-être besoin d'autre chose. Toujours collé par la Toyota, je vais récupérer Pedro dans le bar où il se morfond derrière un jus de tomate et on retourne à l'hôtel. Il me demande si tout s'est bien passé. Je réponds oui. Je suis prêt maintenant. Prêt à quitter cette vie où je n'ai plus ma place. Certain de ne laisser qu'un vide inutile qui se refermera très vite dans le cœur d'Emma, si ce n'est déjà fait. La prière sera le seul lien que je garderai avec elle. Mon seul moyen de l'aider, mais pas n'importe quelle prière. Pas cet espoir obstiné de revenir en arrière. Pas cette harmonie d'autrefois que je ressasse comme un argument pour qu'on se retrouve. Non, la vraie prière. Désintéressée, gratuite, sans chair. Celle qu'ils sauront peut-être m'apprendre à la montagne. Je retourne dans ma chambre, j'ôte le carton ne pas déranger. Aucun message de Kim. J'appelle la 4139, personne ne répond. Je ne peux pas croire que la négociation ait échoué à cause des exigences de mon avocate. Que vais-je devenir s'il renonce à moi? Son mobile est sur boîte vocale. Je laisse un message neutre. Je ne bouge pas et j'attends, voilà. Le soleil couchant dessine des arcades dans les nuages. J'essaie de ne plus penser à Emma, du moins de penser à elle différemment. De vouloir son bonheur sans moi. Je ne demande plus qu'elle me revienne, je veux qu'elle aille le plus loin possible, dans la direction qu'elle souhaite. Un autre style de journalisme, de vraies enquêtes, un combat politique, un livre, un enfant, l'équilibre. Ai-je le pouvoir d'influencer les événements, comme j'ai pu agir sur des états de santé? Je m'assieds par terre, je ferme les yeux, me projette devant l'église où je l'ai quittée tout à l'heure. Je reconstruis la scène et l'ambiance pour essayer de les modifier. Je pars mentalement avec Emma et Tom, je les réconcilie dans leur voiture, je les suis chez eux, j'accepte qu'ils fassent l'amour et qu'elle y prenne du plaisir. Je me concentre pour que Tom ait le même rêve qu'elle, pour que sa dépression ne soit que l'angoisse d'être stérile, l'angoisse que j'ai toujours tue moi aussi. Alors je rassemble notre peur et je la broie entre mes poings. Je fais sauter ses blocages et je libère la vie qui ne demande qu'à éclore en Emma grâce à lui. Et je me clone dans leur bébé qui aura une vraie famille, une enfance claire, un destin libre.